Nous sommes choisis pour la vie. Un jour, une femme a eu très peur. Elle s'appelait Abigail. Son mari avait rudoyé les serviteurs du roi David et méprisé ce dernier qui fuyait devant Saül. Les guerriers de David avaient pourtant précédemment respecté et même certainement protégé les bergers de cet homme. Paniquée en apprenant la réaction de son mari, cette femme s'est précipitée à la rencontre du oint de l'Éternel pour réparer la faute de ce mari. Elle a bien fait, car le massacre de la maison de Nabal, c'est son nom, était résolu. Prosternée devant le roi, voici ce qu'elle déclare sur David. 1 Samuel, chapitre 25, versets 28 à 31. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. » Elle prend sur elle la faute. « Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. » Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, « Souviens-toi de ta servante. » Quelle foi, quelle assurance, quelle vision de la royauté de celui qui pour l'instant est poursuivi et chassé comme un malfaiteur. Cette femme est absolument pénétrée de la vision de David établi comme roi, la souveraineté de celui que Dieu a choisi. Elle a compris que David s'apprête à commettre un massacre qui lui sera ensuite préjudiciable. Bien sûr, elle est concernée parce que elle se serait trouvée elle-même victime de ce massacre. David avait résolu de faire périr toute la maison de Nabal. Elle intercède donc. Et d'une certaine façon, elle désolidarise David de la méchanceté. Cette méchanceté qui peut saisir quiconque sur la terre et amener à commettre des crimes et des choses qui ensuite amèneront la culpabilité pendant tout le reste du parcours. Elle désolidarise David de cette méchanceté. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Que déjà cette parole puisse vous rejoindre, comme elle s'est manifestée dans le Seigneur Jésus-Christ, car la méchanceté ne s'est jamais trouver en notre Seigneur. Il n'est que justice et bonté. Que vous-même, vous ne soyez jamais méchants. Par l'amour de Jésus qui est répandu sur vous, que vous soyez préservés de la méchanceté. Mais surtout, elle voit David avec tous ceux qui vivent devant Dieu. David est gardé pour être avec les vivants. Cette expression, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Nous apprenons ici qu'il y a les vivants que Dieu garde avec lui et l'âme des ennemis qu'il jette au loin. Alors j'aime la traduction « le faisceau des vivants », mais les nouvelles Bibles sont plus précises. En fait, la nouvelle Bible seconde traduit « ta vie sera gardée précieusement auprès du Seigneur, ton Dieu. Mais tes ennemis, il les lancera au loin du creux de la fronde. » Et puis, de plus, il y est écrit en note, littéralement, l'âme de mon Seigneur sera ensachée dans le sachet des vivants auprès du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle sera conservée, protégée par les soins de Dieu lui-même. Et le commentaire se poursuit, du creux de la fronde, le porteur d'une fronde emportait une réserve de cailloux dans un sac. La vie des hommes est comparée à ces cailloux, dont certains sont à l'abri dans le sachet de Dieu, tandis que d'autres sont lancés au loin, égal éliminés par Dieu. Clairement, quelle que soit la traduction, des âmes sont bien vivantes auprès de Dieu et gardées par lui. David est reconnu comme tel. Et vous aussi qui êtes dans la foi. En étant venu à Christ, vous avez été joints aux vivants qui sont gardés auprès du Seigneur. Jésus a bien dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous sommes d'accord. Jean chapitre 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si vous êtes venu à Christ, vous êtes à lui. Jésus vous a reçu et maintenant votre destinée, c'est d'être gardé par le Seigneur. Pas seulement d'être gardé par le Seigneur, mais d'être gardé auprès du Seigneur. Il y a un magnifique psaume qui parle de la protection divine. C'est le psaume 34 et qui mélange un peu les deux aspects, mais qui insiste plus particulièrement sur l'aspect de la protection, d'être protégé et gardé par Dieu. Je vous lis ce psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons bien son nom, tous. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Parole qui s'est appliquée directement au Seigneur Jésus. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Les âmes des justes sont gardées par le Seigneur, mais les âmes des justes sont également auprès du Seigneur. N'est-il pas question de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est auprès de Dieu et qui descend du ciel à la fin? Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 2, très difficile de ne lire que des extraits. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et les versets 9 et 10. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Cette épouse qui est préparée, elle est auprès de Dieu, déjà maintenant. D'ailleurs, c'est ce que affirme l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous nous sommes approchés de cette réalité céleste. L'apôtre n'affirme-t-il pas aussi, dans son épître aux Galates, que par l'alliance de grâce, cette Jérusalem d'en haut est devenue notre mère. Galates chapitre 4, versets 24 à 26. Alors toutes ces choses sont dites dans un contexte d'exhortation, avec des avertissements à ne pas se détourner de cette foi vivante en la proximité de Dieu. Mais elles expriment une réalité qui s'imposera à la fin. L'enseignement spirituel est en quelque sorte catégorique, Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité telle que Dieu l'a créée et la voit dès maintenant. Nous sommes rendus vivants avec Christ pour être assis ensemble dans les lieux célestes. Savons-nous bien la grâce qui nous a été faite ? Dans le désert, il avait fallu que Dieu fasse grâce lors de sa révélation à Israël. D'ailleurs, dans le passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, que je vous ai cité, ça commence par rappeler justement cet événement, qui était l'événement de la descente de Dieu sur la montagne, mais à travers, dans un feu, et qui était une descente effrayante pour le peuple. Et Dieu avait dû faire grâce à ce peuple pour que une bonne partie du peuple puisse rester vivante. Parce que ce peuple manifestait constamment sa rébellion, son incrédulité, et qu'il aurait pu, lors de la manifestation de Dieu, être totalement éliminé, totalement détruit, anéanti. Alors, Moïse rappelle cela dans le Deutéronome, au chapitre 4, versets 3 et 4. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Il poursuit au verset 33. Fut-il jamais un peuple? Là, il parle du moment de la révélation sur la montagne. Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Impossible. C'est par une pure grâce que Dieu a gardé son peuple vivant. Parce que son but, c'est de donner la vie. Et que d'avoir épargné son peuple lui a permis de lui donner la loi, d'établir la première alliance par le don de la loi. Ce qui est dit au chapitre 5, versets 3 à 5. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. » L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. » Et là, Moïse rappelle les commandements que le Seigneur lui a transmis, alors qu'il faisait l'intermédiaire, la médiation entre ce Dieu très saint et le peuple pécheur. L'intercession de Moïse a été nécessaire et suffisante pour que le peuple reçoive la loi sur la terre et vive par son observation comme cela le lui a été demandé. Mais Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance qui nous rend vivants auprès de Dieu. On peut dire par Dieu, pour Dieu, auprès de Dieu. Le ministère de Jésus, parce qu'il a donné son sang à la croix, nous rend vivants pour Dieu et auprès de Dieu. Nous ne sommes pas seulement vivants sur la terre, nous sommes vivants auprès de Dieu. Voici le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et qu'affirme-t-il ? Jean au chapitre 10, les versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mes brebis, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main, ni de la main de mon Père. Ces paroles ne donnent-elles pas une pleine sécurité à ceux qui ont entendu sa voix et répondu à son appel? Si à un moment donné de votre vie, vous avez entendu la voix du bon berger et vous avez répondu à son appel, il vous a accueilli, il vous donne la vie éternelle, il vous garde dans sa main meurtrie. Personne ne peut vous ravir de sa main. Dans notre parcours de croyants, nous avons de la tribulation, comme le Seigneur l'a annoncé lui-même. Et de plus, parce que la tribulation, elle vient de toute façon de l'extérieur, du monde, de l'ennemi. Mais de plus, nous compliquons nous-mêmes notre vie par nos péchés, par nos négligences, par nos désobéissances. Ce pourquoi nous avons besoin d'être exhortés, avertis, instruits, corrigés. Tout le travail que le Seigneur a donné par sa parole à l'Église, de nous garder dans la foi et de nous reprendre et de nous montrer là où nous devons croire bien mieux que nous le faisons. Oui, il faut reconnaître que la faiblesse de notre foi, communautairement, comme personnellement, est source de bien des déboires et de frustrations. C'est vrai. Mais même là, le Seigneur reste près de nous. Il y a cette belle parole de l'apôtre Pierre, 1er épître de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je relève ici qu'il n'est pas dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. » Non, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. » A priori, le Seigneur est là qui prend soin de vous et vous pouvez donc vous décharger sur lui de tous vos soucis. Reprenez donc conscience, si toutefois vous êtes dans le doute, dans la difficulté, reprenez donc conscience de cette vérité, de l'amour tout-puissant du Seigneur qui vous a attiré à lui et qui vous garde en lui. Et donc reprenez confiance. Avec par-dessus tout, cette parole donnée par l'apôtre dans tout un enseignement de son épître aux Romains, chapitre 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà votre réalité spirituelle que vous devez entretenir, dans laquelle vous devez pénétrer. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen.